Il est 13h30 ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Afrique Midi, bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Clotilde Dumé, bonjour à toutes et à tous. Au Niger, la charte de la refondation a été promulguée ce matin lors d'une cérémonie à Niamey. La junte militaire au pouvoir a annoncé officiellement l'instauration d'une période de transition de 5 ans conformément aux recommandations des Assises nationales le mois dernier. En République démocratique du Congo, le M23 toujours présent à Walikale Centre, 5 jours après avoir annoncé s'en retirer. La situation reste tendue dans le secteur. Au moins 11 soldats camerounais tués dans une attaque de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Attaque qui a visé des camps de base de la force mixte multinationale déployée dans le secteur. Et puis les sports du football, la 6e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique s'est conclue hier soir. Des sélections se rapprochent de la qualification, d'autres s'en éloignent, nous le verrons. Au Niger, la charte de la refondation a été promulguée ce matin à Niamey. Le document reprend les principes et recommandations énoncés lors des assises nationales qui se sont tenues fin février. La junte militaire annonce officiellement l'instauration d'une période de transition de 5 ans vers un régime constitutionnel. La cérémonie a aussi donné lieu à la signature d'ordonnances portant sur la dissolution des partis politiques et sur l'amnistie de prisonniers politiques et militaires. Le général Abdourahmane Tiani, qui a été investi pour l'occasion président de la République pour un mandat de 5 ans, a salué dans son discours un nouveau départ pour le Niger.
C'est véritablement dans son contenu que la charte innove. Elle consacre, entre autres, le principe d'un recours au référendum populaire pour permettre au peuple de s'exprimer sur tout projet d'installation de bases militaires étrangères dans notre pays ou encore des mesures inédites de protection de nos ressources naturelles pour que les Nigériens véritablement profitent de l'exploitation de leurs richesses. Il s'agit véritablement d'un pacte politique et social qui prend en compte nos réalités et nos légitimes aspirations d'un nouveau départ pour un Niger souverain et résolument engagé sur le chemin de son développement.
Le général Abdourahmane Tiani ce matin à Niamey. Une question au Mali. Qui a assassiné Boubou Tigal, leader communautaire Peul, chef du marché à bétail de Niamana? Il a été abattu mardi dernier alors qu'il rentrait chez lui à Bamako. David Baché, il n'y a depuis aucune communication officielle sur cet assassinat, mais on sait qu'une enquête est en cours. Un nom en particulier revient dans de nombreux témoignages.
Oui Nicolas, plusieurs dizaines de personnes auraient déjà été interpellées de sources sécuritaires maliennes. Certaines sont reparties libres, d'autres sont toujours en garde à vue. Chez les interlocuteurs joints par RFI, un nom revient sans cesse, celui de Sékou Boly, homme d'affaires Peul, chargé de mission au ministère de la Réconciliation nationale et réputé proche de la sécurité d'État. De nombreuses sources communautaires tiennent pour acquis son implication dans plusieurs enlèvements de leaders Peul ces dernières années, y compris dans celui de Boubou Tigal, détenu plusieurs jours par la sécurité d'État en novembre. Selon ses sources, Sékou Boly souhaitait que Boubou Tigal quitte la direction du marché à bétail de Niamana.
Alors, Sékou Boly, vous l'avez joint, David, et il dément toute implication.
C'est faux, je ne suis pas un assassin, clame Sékou Boly. Ces accusations sont montées de toutes pièces pour salir mon nom. Ceux qui m'accusent n'ont qu'à porter plainte. À ce stade, ce très proche des autorité malienne de transition n'a pas été interrogée par les enquêteurs. Attention à ne pas accuser trop vite, rappelle un important cadre communautaire Peul qui confirme les antécédents entre Sékou Boly et Boubou Tigal, mais qui met en garde contre toute conclusion hâtive. D'autres pistes sont également évoquées, notamment celle d'un conflit foncier portant sur une parcelle du marché de Niamana, l'implication de Boubou Tigal dans la mise en place d'accords locaux impliquant le JNIM lié à Al-Qaïda dans le centre du pays lui a également valu des inimitiés. Plusieurs sources assurent enfin que des animaux volés par les djihadistes auraient été retrouvés sur le marché à bétail de Niamana.
Aux États-Unis, un membre du Congrès, Ronny Jackson, témoignait hier devant la Commission des Affaires étrangères de la situation au Congo. Cet élu républicain rentre tout juste d'une tournée en Afrique centrale. Il s'est notamment rendu en RDC. Et durant son audition, il a tenu des propos très durs en ce qui concerne la situation dans l'Est, Polynésie, région qu'il qualifie de totalement non gouvernée.
C'est le Far Far West. Kinshasa ne contrôle rien, estime l'élu américain. Il évoque la corruption, les difficultés posées aux entreprises qui essayent de s'implanter en RDC ou encore, je cite, l'enrichissement des membres du gouvernement et de leurs familles alors que la population meurt de faim et vit dans des conditions horribles. Ronnie Jackson, qui pointe aussi la responsabilité des pays voisins dans cette situation. Nous savons que l'Ouganda importe des minerais de là-bas, le Rwanda le fait aussi, le Burundi aussi. Tout le monde le fait et rien ne peut les en empêcher, affirme-t-il. Ronnie Jackson a aussi beaucoup insisté sur le potentiel de cette région, très important selon lui, notamment en matière de ressources minières. La RDC pourrait être un des pays le plus riche du monde, dit-il. Il faudrait qu'il se passe quelque chose, mais je ne sais pas quoi, confie-t-il. Alors, pour rappel, Ronnie Jackson rentre d'une tournée en Afrique centrale, un déplacement qui n'était pas avec le titre d'envoyé spécial du président Donald Trump, précise l'ambassade américaine ici à Kinshasa. Il s'est néanmoins entretenu avec les deux présidents, congolais et rwandais. Enfin, il est aussi allé en Ouganda, au Congo et au Burundi.
Pauline Azidi, correspondante de RFI à Kinshasa, sur le terrain. 5 jours après avoir annoncé son retrait de Walikale Centre, le mouvement rebelle AFC M23 est toujours sur place. Le groupe justifie sa présence par le fait que les FARDC n'auraient pas retiré leurs drones de la zone. Pas de réaction pour le moment de l'armée congolaise. Passion Ligodi, quelle est la situation dans cette localité de Walikale Centre?
Une cité paralysée, quasiment pas d'activité. Certains des habitants qui se sont réfugiés en forêt reviennent parfois en journée pour observer la situation avant de repartir. Ceux qui en ont le moyen empruntent la route nationale numéro 3 qui relie Walikale Centre à Kisangani à environ 400 km. Sur cet axe, des mouvements des troupes sont signalés. Des militaires quittent Kisangani en direction des Biroué, le quartier général de la 34e région militaire située à environ 70 km de Walikale Centre. D'autres mouvements sont également rapportés à Lubutu et dans ses environs, 200 km au nord-ouest de Walikale Centre. Dans cette zone, plusieurs sources rapportent par exemple que certains membres du personnel de l'hôpital général de Lubutu, une référence dans la région, ont quitté les lieux pour se replier sur Kisangani. Même chose pour certains agents du parc national des Maïko, un site qui abrite notamment des espèces animales endémiques comme le gorille des plaines de l'Est et l'okapi. Des milices locales, en particulier les Simba, se revendiquent aussi Wazalendo, ces groupes qui soutiennent l'armée congolaise, y déclare être prêt à combattre. À Kisangani, que certains observateurs considèrent comme une éventuelle prochaine cible du groupe rebelle, l'armée est aussi en alerte. C'est depuis cette ville, siège du quartier général de la 3e zone de défense, que l'aviation militaire opère actuellement. C'est dans ce contexte que le chef d'état-major général des forces armées congolaises s'y est rendu dimanche dernier.
Une attaque meurtrière de Boko Haram contre l'armée camerounaise dans le nord-est du Nigeria. Déguisés en éleveurs et en commerçants, des insurgés islamistes ont infiltré une localité frontalière où des soldats étaient déployés avant de frapper par surprise, Polycarpe Somba.
Selon des sources sécuritaires à Maroua, l'attaque est survenue dans la nuit de lundi à mardi dans la localité nigériane de Wulgo, frontalière du département camerounais du Legonechari. Les mêmes sources déclarent que les insurgés de Boko Haram ont pris par surprise des camps de base des forces multinationales mixtes qui comptent en leur sein des soldats nigériens, tchadiens, nigériens et camerounais et qui opèrent dans la région dans le cadre des missions anti-djihadistes. Particulièrement violente, l'attaque qui a duré un peu plus de 2 heures a fait de nombreuses victimes dans les rangs des soldats camerounais, au moins 11 morts et 21 blessés qui ont été conduits dans les hôpitaux de Maroua. Les insurgés ont aussi emporté des armes, dont des canons anti-aériens ainsi que des munitions. Ils ont aussi mis le feu sur ces bases militaires et des véhicules de combat, renseigne pour sa part l'AFP. Cette attaque sur Wulgo en territoire nigérien est l'une des plus meurtrières pour les forces camerounaises, engagées depuis plus de 10 ans contre les islamistes de Boko Haram, venus du Nigeria dont les exactions débordent assez régulièrement côté Cameroun, dans les localités qui bordent la frontière. Pour les Carpes Yaoundé, RFI.
En Centrafrique, l'opposition pourra-t-elle organiser une manifestation comme elle le souhaite le 4 avril prochain? Le gouvernement l'a interdite hier, mais la plateforme BRDC, Bloc Républicain de Défense de la Constitution, entend passé outre, François Mazet.
Oui, c'est la suite d'une passe d'armes entamée il y a 8 jours, depuis que le 18 mars, le BRDC a livré un violent réquisitoire contre les autorités dénonçant les difficultés récurrentes du quotidien et la perspective d'un nouveau mandat pour le président Touadéra en fin d'année. La plateforme de l'opposition annonce donc sa mobilisation pour le 4 avril. Quelques jours plus tard, le parti au pouvoir Mouvement Cœurs Unis dénonce une tentative de déstabilisation, puis plusieurs organisations de la société civile liées aux autorités multiplient les sorties hostiles au BRDC. Et hier, donc, le ministre de l'Intérieur écrit que la marche n'est pas autorisée. Il se base sur un arrêté de 2022 qui édicte que toutes les marches et manifestations sur la voie publique sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour raisons sécuritaires. Or, l'opposition fait remarquer que depuis, il y a eu la campagne référendaire de 2023 avec ses cortèges pro-nouvelle constitution. Elle constate également que des événements favorables à la candidature du président Touadéra se sont multipliés ces derniers temps. Un grand meeting est d'ailleurs annoncé pour ce samedi au stade 20 000 places. Conséquence, les leaders du BRDC ont déjà annoncé maintenir leur appel à la mobilisation.
Il est 13h41 à Bangui.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, une ONG de protection de la faune sauvage poursuivie en justice après des transferts d'éléphants au Malawi. Et les sports, suite et fin hier de la 6e journée des éliminatoires du Mondial de foot 2026 pour la zone Afrique. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce mercredi, en Guinée, 3 mois après sa condamnation à 2 ans ferme pour offense et diffamation envers le président de la transition Mamadi Doumbouya, le procès en appel de l'opposant Aliou Ba a commencé ce matin à Conakry. Des observateurs des ambassades étrangères sont présents dans la salle. Au Soudan, l'armée nationale continue sa progression dans Khartoum face aux milices FSR. 5 jours après avoir repris le palais présidentiel, elle a repris ce matin le contrôle de l'aéroport, selon une source militaire citée par l'agence France-Presse. Selon des témoins, les miliciens FSR se sont repliés vers le sud de Khartoum afin de sécuriser leur retrait de la capitale via les ponts qui mènent à Omdurman, sur l'autre rive du fleuve Nil. Une ONG active au Malawi poursuivie en justice, IFO, le Fonds international pour la protection des animaux, avait procédé au transfert de 263 éléphants en juillet 2022. Mais ces éléphants auraient tué au moins 10 personnes. Des habitants vivant à proximité du parc national de Kasungu, le deuxième plus grand du pays, à cheval sur la frontière zambienne. Des poursuites, Juliette Pietraszewski, ont été engagées au Royaume-Uni, au Malawi et en Zambie.
Oui, au total, 10 personnes ont porté plainte contre l'ONG IFO. Les plaignants, dont l'identité n'a pas encore été révélée, assurent craindre pour leur sécurité et parlent d'une augmentation importante des conflits entre humains et animaux sauvages. Le journal britannique The Guardian rapporte le témoignage d'un agriculteur zambien ayant passé 4 mois à l'hôpital après s'être fait charger par plusieurs éléphants au moment où il traversait sa ferme. Parmi les demandes des plaignants à l'ONG IFO, des indemnisations et la clôture du parc. Certains précisent qu'ils sont eux aussi pour la protection des éléphants et que leur démarche restera pacifique. De son côté, IFO se dit attristé et par tous les cas de conflits entre l'homme et la faune sauvage, précise que les normes internationales ont été respectées à Kasungu et que son rôle était de fournir un soutien financier et technique au département des parcs nationaux et de la faune sauvage du Malawi. Un soutien comprenant la surveillance des clôtures physiques et virtuelles. Enfin, l'ONG rappelle que le gouvernement du Malawi a la responsabilité globale des parcs nationaux.
Les sports, du football, la 6e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique s'est conclue hier soir. Des sélections se rapprochent de la qualification, d'autres s'en éloignent dangereusement. On fait le bilan avec vous, Sofiane Amazian. Le Maroc est tout proche du prochain mondial.
Oui, 5 victoires en 5 matchs, Nicolas, pour les Lions de l'Atlas. 15 points, soit 9 de plus que le Niger, deuxième, avec un match en moins. Hier, les coéquipiers d'Achraf Hakimi ont battu la Tanzanie 2-0. Avec 16 points, l'Égypte de Mossala trône, elle, en tête du groupe A. 5 points devant le Burkina Faso, 5 points. C'est également l'écart entre l'Afrique du Sud, leader de sa poule, avec 13 points, et le Rwanda, deuxième. Les Bafana Bafana ont triomphé hier du Bénin 2-0.
Dans les autres groupes, c'est plus serré, de beaux duels finales sont attendues au mois de septembre.
Et on le rappelle, Nicolas, seule la sélection qui termine en tête de groupe validera directement son ticket pour le Mondial 2026. On commence par le groupe B, le Sénégal, qui va batailler dur avec la RDC pour l'instant première, un point devant. Les Léopards, qui n'ont plus participé à une Coupe du Monde depuis 1974, sont venus à bout de la Mauritanie 2-0. Les Sénégalais ont battu le Togo sur le même score. Écoutez la réaction d'Edouard Mendy, le gardien de la tanière, au micro de Wahani Johnson Sambou.
C'est ce qu'il faut retenir, la victoire. En première mi-temps, on était un peu en dedans. On a réglé ça en deuxième mi-temps, on a gratté des ballons plus haut. On a eu des bons temps de possession. C'est ce qu'il faut faire quand on joue à domicile et quand on est le Sénégal. On sait que les prochains matchs vont être capitaux, donc à nous de bien les préparer.
Et la Côte d'Ivoire de son côté est collée par le Gabon, deuxième de cette poule F, une unité derrière. Les éléphants se déplaceront sur le terrain de leur rival en septembre. Même scénario entre le Cameroun, deuxième, et le Cap-Vert, premier dans le groupe D. Duel prévu en septembre également.
Enfin, Sofiane, certaines sélections peuvent quasiment dire adieu à leur rêve de mondial.
La Guinée d'abord, déjà absente de la prochaine CAN et seulement cinquième du groupe G, à 8 longueurs de l'Algérie leader, le Sili qui a déçu hier en perdant face à l'Ouganda. Le Mali de son côté perd du terrain après son nul face à la Centrafrique 0-0. Les Aigles ont 9 points, soit 6 de moins que le Ghana dans le groupe I, où les Comores, deuxième, réalisent pour l'instant un beau parcours. Puis enfin le Nigeria, avec son nul hier contre le Zimbabwe 1-1, n'est plus vraiment dans le coup, Nicolas, malgré son armada offensive, 6 points de retard sur le leader de ce groupe, l'Afrique du Sud.
Son histoire a ému le Niger et provoqué une vague de solidarité. Yasmina, une jeune orpheline atteinte d'une maladie rare et incurable, a besoin de se rendre à l'étranger pour recevoir des soins. 3 semaines après son lancement, une cagnotte en ligne a permis de récolter des dons suffisants pour financer son évacuation sanitaire, Magali Lagrange.
En robe fleurie, Yasmina affiche un sourire sur un visage juvénile sur la photo qui accompagne la cagnotte lancée sur les réseaux sociaux. La jeune étudiante est atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui provoque raideur musculaire et spasmes douloureux. Diagnostiquée en septembre dernier à Tunis, la maladie est incurable, mais des traitements peuvent en soulager les symptômes. Des traitements que la jeune orpheline, décrite comme une élève brillante, n'a pas les moyens de payer puisqu'ils nécessitent de se rendre à l'étranger. Elle et plusieurs jeunes Nigériens décide alors de prendre les choses en main. Au début du mois, une cagnotte en ligne est lancée pour financer son évacuation en Turquie. L'appel est relayé sur les réseaux sociaux. Opérateurs économiques, fondations, anonymes mettent la main à la poche pour lui venir en aide. L'objectif de départ, 40 millions de francs CFA, est déjà largement dépassé. L'équivalent de 100 000 euros ont été récoltés. « Je ne saurais assez remercier », confie Yasmina sur une chaîne locale. Hier, les dons continuaient d'arriver. La cagnotte reste ouverte pour financer la suite des traitements.
Il est 13h47 à Paris. Clotilde Dumais, les grands titres de ce mercredi 26 mars 2025.
Le président ukrainien attendu à l'Elysée, Volodymyr Zelensky, reçu par son homologue français Emmanuel Macron pour préparer le sommet de demain à Paris avec les pays prêts à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. Kiev qui a conclu avec Moscou un accord de trêve en mer Noire après des discussions avec les Américains. Mais les deux camps s'accusent mutuellement déjà de vouloir le faire échouer après de nouvelles attaques. Dans ce contexte, une nouvelle hausse des dépenses pour la défense. Cette fois-ci, elle est annoncée par la Suède, le gouvernement suédois qui prévoit près de 30 milliards d'euros en plus sur les 10 prochaines années, avec l'objectif d'atteindre 3,5% du PIB d'ici 2030. Le Premier ministre israélien menace d'intensifier encore la pression sur la bande de Gaza si le Hamas ne libère pas les otages toujours détenus. Il pourrait être tué, prévient de son côté le mouvement islamiste palestinien, qui assure dans un communiqué faire son possible pour maintenir les captifs en vie, mais les bombardements israéliens mettent, selon le Hamas, leur vie en danger. Et puis Washington et Paris font part de leurs préoccupations face à la situation en Turquie. Plus de 1400 personnes ont été interpellées en une semaine de manifestation contre l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu. L'opposition appelle à un grand rassemblement samedi. Au Sénégal, le Fonds monétaire international a donc confirmé les révélations faites le mois dernier par la Cour des comptes. Une dette d'un montant équivalent à 7 milliards de dollars a été cachée entre 2019 et 2024, c'est-à-dire pendant le deuxième mandat de l'ancien président Macky Sall. Alors comment expliquer une telle situation? L'économiste Yves Ekwe Amaizo, président du think tank Afrocentricity, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Yves Ekwe Amaizo.
Bonjour Monsieur Sûr.
Avant de revenir sur le cas sénégalais, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnent les mécanismes de prêt du FMI? Quelles garanties le fonds demande-t-il avant de débloquer des aides?
Alors, pour faire simple, vous savez, le Fonds monétaire international intervient surtout sur le volet financier économique. Sa contrepartie est le ministère ou le ministre économie et finances, voire budget. Et de manière plus globale, il y a un problème de fond, c'est-à-dire qu'il y a un déficit commercial dans un pays qui entraîne automatiquement souvent un déficit de la balance des paiements. Et donc, du coup, ce déséquilibre a des conséquences sur le budget. Ce budget est en déséquilibre, il faut bien aller trouver l'argent quelque part. Donc, on va chercher des bailleurs. L'un de ces bailleurs, au niveau international, eh bien, le Fonds monétaire international. Et comment ça se passe? Ça se passe en plusieurs étapes. Hein. Il faut identifier le besoin, etc. Je n'irai pas dans le détail. Il y a 7 grandes étapes par lesquelles passe le FMI pour, en fait, accepter, en fin de parcours, de vous faire un prêt avec, bien sûr, des conditionnalités. Elles sont négociées, ces conditionnalités. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Quand vous avez parlé du mot « caché », on va en reparler tout à l'heure.
Mais le fonds prête cet argent, il demande des garanties sur la solvabilité des États auxquels il prête.
Alors la première des garanties, c'est la garantie de l'État. C'est-à-dire que si jamais l'État fait défaut, ne peut pas payer, ben écoutez, va falloir pouvoir récupérer cet argent. Et donc, de manière générale, on quitte en guillemets la finance pour aller prendre ce que j'appelle des capacités productives de l'État. On peut, par exemple, dire que telle ou telle partie de ce qui rapporte des recettes à l'État va automatiquement d'abord solder la dette ou une partie de la dette. Donc, tous ces éléments font qu'on ne peut pas rester uniquement en économie-finance. Il faut voir le problème beaucoup plus large parce que vous savez qu'une partie de cette dette du FMI, d'ailleurs, il faut rappeler que le FMI, on en parle beaucoup, mais il ne représente pas plus de 5 à 7% de l'ensemble de la dette du Sénégal, par exemple. Et le reste, ce sont les conditionnalités qui amènent d'autres partenaires économiques, bilatéraux, régionaux, voire même du privé. Pour ça que vous parlez, vous entendez les clubs de Londres, les clubs de Paris et autres, ce sont des gens qui acceptent de prendre la dette en question et de le revaloriser sous d'autres formes, et c'est toujours en accord avec le gouvernement. Alors la garantie, deuxième élément, c'est pas une garantie au sens hypothécaire comme dans une banque, c'est plutôt le fait que vous vous engagez à suivre une politique économique libérale et qui devrait en principe vous ramener à rééquilibrer votre compte. Sauf que il y a deux grandes parties, la partie plutôt de court terme et la partie plutôt de moyen long terme. Et vous voyez bien la difficulté. De très court terme, écoutez, vous ne pouvez pas faire bien grand chose. Donc on va ponctionner plutôt sur les impôts, donc sur les contribuables. On peut couper ici et là des subventions, comme faisait l'État, par exemple, qui crée souvent des problèmes sociaux localement, ou si ce qui est moyen à long terme, mais écoutez, vous ne pouvez pas payer, on prend en charge, par exemple, le port, ou bien telle capacité productive qui va ramener des recettes et qui va permettre de solder rapidement la dette en question.
Dans le cas du Sénégal, que s'est-il passé, selon vous?
Moi, je pense que, vous avez parlé d'un mot caché, je vais revenir dessus, je pense ceci. D'ailleurs, j'ai regardé exactement ce qu'a dit le représentant du FMI. Il ne parle pas justement de dissimulation ou de cachet. Hein. Ils sont beaucoup plus prudents, parce que ce sont des gens quand même qui sortent des organisations internationales. Ils parlent plutôt de compte que, disons que l'information a pu être différée. Je m'explique. Vous savez, au temps T, aujourd'hui, vous pouvez constater effectivement qu'une partie de l'information n'a pas été inscrite au niveau national, effectivement, vous aboutissez à quelque chose de caché ou dissimulé. Sauf que au temps T plus 1 ou T plus 2, on peut récupérer ça. Ça veut dire tout simplement qu'un budget peut avoir ce que j'appelle des comptes de transfert dans lequel nous inscrivons un certain nombre de dépenses qui vont être compensées un peu plus tard. Pour être précis sur le Sénégal, si, par exemple, l'ancienne équipe avait prévu que dans 2-3 ans, l'argent qui devrait rentrer par les hydrocarbures, le gaz et le pétrole, aurait permis de payer des engagements ou des dettes d'aujourd'hui, effectivement, autant T plus 1 plus 2, ça allait se rééquilibrer. Sauf qu'il y a eu un changement de gouvernement, qui est le gouvernement de rupture par dessus le marché, et qui en plus a une autre politique. Donc du coup, si vous faites une photographie ou à l'instant T, oui, il y a de l'information qui n'était pas inscrite. Est-ce que le FMI n'était pas au courant? J'en doute, parce que ce n'est pas possible sans, lors des discussions, tout ceci se sait. Le problème du FMI, c'est pas d'aller s'ingérer dans les affaires, disons, politiques du gouvernement, mais de s'assurer que la dette en question ou la partie de la dette en question est payée. Si le gouvernement s'engage à le faire et promet de le faire, ça ne pose pas de problème. Un dernier point très important, c'est ce même FMI qui a donné des statistiques très intéressantes, croissance économique et autres, pour le Sénégal, justement sur la base de ces rentrées d'argent, recettes du pétrole et des hydrocarbures. Sauf qu'il y a eu du retard, ça a décalé dans le temps. Et ce gouvernement, qui aussi croyait pouvoir avoir cet argent, ben écoutez, c'est décalé. Je crois comprendre que les premières recettes ne vont démarrer que cette année, voire peut-être fin d'année, début d'année prochaine.
Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un problème dans la sincérité des déclarations sénégalaises.
En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait eu intention de falsifier. Moi, je pense simplement que c'est vraiment des écritures comptables. Vous savez très bien partout que n'importe quel comptable, expert comptable, a des comptes de transfert, des comptes intermédiaires, dans lesquels on met un certain nombre de choses qu'on va, disons, remettre en place au bout d'un certain temps. Et c'est un peu le découvert bancaire que nous avons tous dans nos comptes privés. Sauf que si ce découvert bancaire, vous ne le faites pas en sorte que ça retrouve son équilibre, là, vous avez un problème avec votre banque et c'est la même chose. Maintenant, est-ce que cet équilibre peut se refaire? Certainement. Mais derrière, il y a une politique. Donc, il y a eu des engagements. Et ces engagements sont certainement mis en cause par le nouveau gouvernement puisque c'est une autre approche qui est mise en place. Et certainement que le FMI et ceux qui sont derrière le financement du budget pour le Sénégal, elle va reposer des conditions qu'on ne change ni les contrats qui suivent. Prenons le pétrole, par exemple. Vous savez, si vous décidez du jour au lendemain, telle société, vous passez à une autre, et que, disons, la rentrée d'argent aux recettes pour l'État passe de X à X plus 2, bah, écoutez, ça change quand même toute la discussion. Et ceux qui avaient prévu, justement, de fonctionner avec ce contrat, souvent de moyen et long terme, bah, écoutez, comme on dit en bon français, ils l'ont dans le baba. Donc, ça pose vraiment des problèmes au-delà de la finance.
Merci Yves Ekwe Amaïso. Cet entretien sera à retrouver sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité onglet invité d'Afrique Midi. Et l'on se quitte avec la rappeuse sud-africaine Hugen Blackrock. Elle vient d'enflammer le festival de musique du monde de Babel Music XP à Marseille et s'apprête à sortir un troisième album dont plusieurs titres sont déjà disponibles. Hugen Blackrock, une figure du hip-hop conscient qu'Olivier Roger a rencontré.
Hugen Blackrock est une rappeuse à la culture encyclopédique, fan absolue du psychiatre suisse Carl Gustav Jung, féru de mythologie en tout genre, passionnée de littérature. Elle écrit un rap conscient, habité et politique.
La découverte du hip-hop m'a permis d'élargir ma curiosité. Il y avait tellement de matériaux que je ne comprenais pas, des choses qui venaient de rappeurs américains qui parlaient de leur lutte. Donc, j'ai dû passer beaucoup de temps enfermé à la bibliothèque.
Si le socle est politique, la musique emprunte ses mélodies envoûtantes au trip-hop des années 90, sous le flow de Hugen Blackrock et la férule du compositeur Kanif the Jatmaster, ces mélodies déploient une amplitude et une richesse qui en font de véritables odyssées lyriques. Si le nouvel album de Hugen Blackrock ne sortira qu'en mai prochain, plusieurs titres sont déjà disponibles sur les plateformes. Il révèle une forme de continuité avec les deux précédents albums, un univers cérébral et méditatif où le questionnement n'exclut pas l'insouciance. Teach the pupil in your iris to navigate crises as soon as they materialize. Let your mind's eye see through lies like ectoplasm, that's the exorcist inside.
Et c'est avec Hugen Blackrock que se referme cette demi-heure africaine. Call us how they call rain, no bickering like old days. We've been showing out since Stone Age, glitter, we got gold veins, precious and unknown ways. You won't call us by our own names, call us how you call rain, no bickering like old days. We've been showing up since Stone Age, glitter, we got gold veins, precious and unknown ways. When tears flood the eyelids and no spell can bind them, don't ever stop shining. Afrique Midi était réalisé avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr, merci beaucoup. But separation from the self is the quickest way of dying. There'll be no moment of silence. So rise like Osiris with spine like iron when they threaten you with violence. Build empires like Mayans. Connect to earth like your name was psilocybin. Show you how... Tout à l'heure sur RFI, de vive voix.
Pascal Paradon.
Silence. La Cité des sciences et de l'industrie consacre une exposition au silence pour réfléchir sur notre rapport ambivalent au bruit et à son contraire. Recherché, mais parfois angoissant, plus c'est calme autour de nous, plus cela s'agite en nous.
Les langues s'expriment de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Priorité santé.
Chantal Laureau vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Quelle attitude adopter face à un interlocuteur agressif? Ça s'apprend.
Vendredi.
Question de femme avec Laurence Garcia, l'endométriose.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.